France Inter.
~75% fin février d'activité en moins sur l'activité MaPrimeRénov. MaPrimeRénov était déjà très complexe et la nouvelle mouture était encore plus complexe. Cette année, dès les deux premiers mois, on voit bien qu'il y a un arrêt brutal de l'activité et les artisans s'en désintéressent. Et on a de moins en moins d'entreprises dites qualifiées pour accéder à ce marché, le fameux marché RGE.
Ah ben ça, c'est un problème majeur. Hein. Si les artisans ne cherchent plus à être labellisés RGE, reconnus garants de l'environnement. C'est Jean-Christophe Repon, la voix des artisans du bâtiment qu'on vient d'entendre. Apparemment, les ménages se découragent aussi face à MaPrimeRénov, chute libre du nombre de dossiers de demande de subvention. Est-ce exclusivement la faute des nouvelles conditions imposées au dispositif? En tout cas, le gouvernement a décidé hier de détricoter sa toute nouvelle et dernière réforme qui datait seulement de janvier. Il y a 6 semaines, la priorité, c'était de recentrer les subventions sur les rénovations globales, les plus efficaces face au réchauffement climatique. Eh bien, c'est repoussé. À 2025, on pourra donc continuer avec les monogestes qui ne servent pas à grand-chose. Hein. Tout seul, par exemple, on pourra continuer à seulement changer ses fenêtres et pas être obligé de changer en même temps son chauffage. Donc, encore des zigs et des zags pour la rénovation énergétique. Un dispositif MaPrimeRénov créé en 2020, connu pour être un casse-tête majeur. Hein. Sans cesse modifié, il y a quelques jours, c'est Bercy qui a fait demi-tour. Le milliard supplémentaire annoncé pour MaPrimeRénov, hop, il a été repris. Ça n'aide pas les particuliers ni les industriels à décider de leurs investissements. Alors l'État dépense-t-il judicieusement l'argent des contribuables pour adapter les logements, mais aussi la ville, les transports, l'économie en général au changement climatique? La Cour des comptes va répondre à la question dans son rapport annuel qui sera publié mardi. On l'attend avec impatience.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bienvenue, nous reprenons la conversation sur l'économie qui ne s'arrête jamais. C'est bien pour ça que tous les samedis, on la met sur pause, l'écho, jusqu'à 10h, avec l'équipe qui se trouve en régie, Maria Pasquet à la réalisation, Valentin Pérez, le chargé de production. À la technique, c'est Paola Collin qui officie, et au mixage, c'est Anne-Laure Collin qui a opéré. Ce matin, notre invité est un banquier, Daniel Ball, qui prendra dans quelques jours les rênes du Crédit Mutuel. Interview à 9h40, il sera question des taux, il sera aussi question du crédit IMO, des frais bancaires. Des irritants perpétuels, hein, ces frais bancaires. Parfois au point que les politiques s'en mêlent. Et par exemple, pour les frais de succession, vous avez peut-être vu qu'ils ont été encadrés cette semaine à l'Assemblée. Vous entendrez le reportage de Léa Gage. Notre auditeur Sacha a une question pour vous, Madame Vioboulot. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Sacha veut en savoir plus sur l'importance des seuils sociaux dans les entreprises.
Oui Alexandra, le gouvernement envisage de relever ces seuils qui déclenchent des obligations pour les entreprises. Mais si on passe de 50 à 100 salariés par exemple, demande Sacha, les comités sociaux et économiques déjà créés devront-ils disparaître?
Ben oui, est-ce que ça entraîne obligatoirement un retour en arrière? Sandrine, on vous retrouve pour la réponse, ce sera juste avant 10h. Tout de suite, c'est l'actu, c'est le débat. Avec Anne-Sophie Le Chevalier, journaliste à Libération. Salut Anne-Sophie.
Bonjour Alexandra.
Et Marc Vignaud, mon confrère de l'Opinion. Hello Marc.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Pour nous, c'était la nuit de jeudi à vendredi, il y a quoi, 24 grosses heures, discours sur l'état de l'Union de Joe Biden. 8 mois avant le scrutin présidentiel américain, le monde entier nous envie notre économie, a assuré le président en exercice. Et Biden a bien besoin de se faire un petit peu mousser sur l'économie, parce qu'apparemment les Américains n'en sont pas persuadés de cette bonne santé de l'économie américaine. On va donc parler, Marc, Anne-Sophie, de ce paradoxe. On va regarder la photo de plus près. On va aussi faire la comparaison avec l'économie européenne. C'est le débat.
La victoire de Joe Biden est annoncée dans tous les États concernés par le Super Tuesday. Donald Trump, lui aussi, remporte largement ce rendez-vous important des primaires aux États-Unis avant la présidentielle de novembre.
Vote en priorité pour Donald Trump, une répartition géographique du cœur de l'Amérique et de la Bible Belt, de la ceinture biblique.
Célia Belin, politologue,
directrice du Conseil européen pour les relations internationales.
Mais ce que Donald Trump a réussi à faire, c'est aussi à mobiliser la classe ouvrière blanche américaine, mais également maintenant, on le voit, la classe ouvrière noire et la classe ouvrière latino. Et donc, c'est un candidat qui joue sur la nostalgie, une forme de lutte des classes en disant « il ne vous écoute pas ».
Si on avait deux candidats lambda, Biden serait clairement favori.
Justin Weiss, directeur général du Forum de Paris sur la paix.
Pourquoi ? Parce que c'est le président sortant. Il y a toujours une prime au sortant, surtout si l'économie est bonne. Or, l'économie est bonne.
La croissance, le chômage au plus bas, les indices boursiers au plus haut historique, 15 millions de postes de créés en 3 ans.
Amy Porter, porte-parole des Democrats Abroad.
On sait parfaitement, il y a toujours un laps de temps entre le fait que l'économie aille mieux et que les gens ressentent que l'économie va mieux. On fait des progrès et on se dit d'ici les 8 mois avant l'élection, ça va continuer à s'améliorer et les gens vont se rendre compte.
D'un côté comme de l'autre, vous demandez à des démocrates et des républicains, la priorité essentielle, ce sur quoi va jouer l'élection, c'est sur le rétablissement de la sécurité contre l'immigration illégale.
Nicolas Conquet, porte-parole des Republican Overseas.
C'est 10 millions de clandestins qui ont traversé depuis l'arrivée au pouvoir de Biden, c'est absolument considérable. Chaque État est considéré comme un État frontalier qui pâtit en fait de ce chaos.
Que ce soit une administration Biden reconduite ou une administration Trump qui reviendrait, c'est pas du tout les mêmes États-Unis.
Thomas Gomard, directeur de l'Institut français des relations internationales.
Et par voie de conséquence, c'est plus la même relation transatlantique. Nous avons une année 2024 qui est suspendue aux résultats des élections américaines qui, d'une certaine manière, sont beaucoup plus importantes pour l'avenir du continent européen que les élections européennes du mois de juin.
Anne-Sophie Le Chevalier, je me tourne vers vous. Le bilan de Joe Biden, est-ce qu'il est positif, Lydie, cette économie que tout le monde nous envie?
Exactement, il est très bon sur plusieurs aspects et au prix, on peut le dire dès maintenant, de milliards de dollars déversés dans l'économie avec une politique expansionniste marquée, mais on y reviendra plus tard. Et donc, comme vous l'avez dit Alexandra, il n'a pas hésité à le rappeler dans son dernier discours sur l'état de l'Union. Donc j'ai hérité d'une économie qui était au bord du précipice, a-t-il dit, et aujourd'hui notre économie suscite l'envie du monde entier. Alors les bonnes statistiques ne cessent de surprendre à la hausse, donc encore hier sur les créations d'emplois, 275 000 supplémentaires en février. Là, c'est au-delà des attentes. Le plein emploi n'est pas un rêve là-bas. Le taux de chômage est sous les 4% depuis 2 ans. Au plus bas, a dit Biden, depuis 50 ans. Et insistant, il insiste notamment sur la création des petites entreprises et les 800 000 nouveaux emplois dans l'industrie manufacturière, qui est clairement aussi une mention pour dans le cadre de sa lutte contre Trump. La récession que tout le monde annonçait, finalement, n'a pas encore eu lieu. Jerome Powell, faut se souvenir, il y a 2 ans...
Le patron avait, de la réserve fédérale, la banque centrale américaine.
Voilà, ouais. La Fed. Il avait annoncé à l'été 2022 que la lutte contre l'inflation allait faire souffrir tout le monde et promis du sang et des larmes. C'est pas ce qu'on a vu pour l'instant. Certains économistes s'attendent toujours à un petit ralentissement, mais on peut reprendre par exemple la dernière prévision du FMI qui a revu à la hausse sa prévision de croissance pour les États-Unis pour 2024 à 2,1, à 1,7 en 25, après 2,5 l'an dernier. Et puis, dernier point quand même, sur l'inflation, le combat est là-bas aussi en passe d'être gagné. Et à nouveau, la Fed, il prévoit de commencer à baisser les taux à un moment dans l'année.
Ils sont moins précis que la BCE. Hein. Marc Vigneault, est-ce que vous voulez compléter la photo?
Bah oui, l'inflation, le combat est gagné. On est à peu près au même niveau en France. Hein. Au mois de janvier, par exemple, on avait 3,1% d'inflation sur un an en France. Aux États-Unis, c'était 3,1%, 2,9% ensuite en février. Bon, les Américains, ils constatent quand même, et c'est pour ça que, a priori, Joe Biden n'arrive pas à convaincre les Américains que l'économie va si bien, c'est que le niveau de prix reste quand même très très élevé. Acheter un logement aux États-Unis, ça reste extrêmement difficile de s'endetter, les taux sont quand même encore très élevés, et puis il y a tout le problème de la politique migratoire. Les Américains estiment qu'il y a trop d'immigration et que sous Joe Biden, les immigrés sont rentrés trop facilement. Mais c'est vrai que le résultat de l'économie américaine en général est impressionnant. Et comparé à l'Europe, 2,5% de croissance l'année dernière, alors que nous, on est à 0,5. Quand on voit la divergence du PIB par habitant, donc en enlevant l'effet population, parce que la population américaine croît plus vite que la population européenne, c'est vrai qu'on s'aperçoit que depuis 20 ans, on est totalement distancé, nous les Européens, et donc en fait, il faut s'interroger sur pourquoi il y a une telle divergence, et il y a des facteurs conjoncturels liés à la politique de Biden qu'on peut commenter, mais il y a aussi des facteurs structurels qui me paraissent quand même plus importants.
Sur la perception, enfin, je pense que c'est important de revenir sur la différence entre les statistiques qu'on vient d'égrener et la perception.
Oui, le paradoxe en fait des sondages.
Alors c'est un problème pour Biden, ouais, parce qu'on sait bien qu'aux États-Unis, souvent l'élection elle joue sur l'économie, et par ailleurs,
et là
c'est quand même très impressionnant. Moi j'ai repris là cette semaine une étude du New York Times et du Siena College qui vient d'être publiée, à la question comment qualifieriez-vous les conditions économiques aujourd'hui aux États-Unis, ils sont 7% seulement à répondre excellente, 19% seulement à répondre bonne, et 51% à les juger mauvaises. Alors ça, tout le monde est en train de chercher pourquoi cette distorsion. Vous avez mis quelques éléments, Marc, mais il y a vraiment la perception de l'inflation. Comme vous l'avez dit, les prix, ils ont quand même beaucoup augmenté, et ça, c'est un problème qu'on a aussi en France. Je vous renvoie à une étude hier de la Banque de France sur cette perception. En fait,
morsure de l'inflation fait mal et on a du mal à percevoir le reflux.
Et la désinflation, surtout, ne signifie pas baisse des prix. En fait, ça, les prix accélèrent moins vite, en quelque sorte, mais ils restent quand même significativement au-dessus. Plus, on se rend compte qu'il y a une forme de déformation dans la perception, parce que on s'intéresse surtout au prix des achats récurrents, donc par exemple les courses qu'on fait tous les jours, les fruits et légumes, et on a tendance à extrapoler ces prix-là à l'ensemble de l'inflation, et c'est un vrai problème, on y reviendra, parce que ça peut aussi jouer sur la politique monétaire, comme on dit, ça désancre les anticipations d'inflation, les gens croient plus que ça va baisser.
Là-dessus, Paul Krugman, qui est l'éditorialiste du New York Times et qui a eu le prix Nobel d'économie en 2008, enfin le prix de la Banque de Suède, comme dirait Christian, lui, il dit donc il y a cette histoire de prix, et puis il y a aussi la perception biaisée liée à la politique. En fait, il y a un biais idéologique lié à pour quel candidat vous votez. Et en fait, Donald Trump a réussi à installer l'idée que finalement l'économie n'allait pas si bien que ça. Et donc il y a ce biais politique qui joue aussi fortement. Et il dit aussi l'inflation, quand il y a une désinflation, en fait, les études économiques montrent que ça met plusieurs années à infuser dans l'opinion. Les gens finissent par s'en rendre compte, mais avec retard. Il y a à peu près 2 ans de décalage, donc il va falloir un peu de temps.
Et les élections, c'est en novembre.
Voilà. Non, mais il dit, parce que ça a commencé un peu il y a un moment, donc il dit peut-être que pour les élections en novembre, enfin lui, évidemment, il est pro-Biden, et donc il espère que ça sera déjà dans les esprits à la fin de l'année.
Anne-Sophie Le Chevalier, est-ce qu'on sait ce qui se passe si Donald Trump arrive à la Maison-Blanche pour l'économie ?
Alors, on sait déjà que ça sera lui face à Biden, c'est quand même ça, on le sait depuis le Super Tuesday cette semaine. On sait qu'il a pas décidé de se calmer sur le protectionnisme. Donc il a annoncé il y a déjà plusieurs semaines, en faisant peur en tout cas à l'étranger, ses mesures notamment sur les droits de douane qu'il veut tous revoir à la hausse. Donc un droit de douane de 10% sur l'ensemble des importations, avec ils sont aujourd'hui autour de 3,4% en moyenne, et de 60% sur les importations chinoises. Ouais. Contre 20% à peu près aujourd'hui. Sur le plan intérieur, ça risque de faire repartir l'inflation, d'amoindrir la croissance, et sur le reste de l'économie mondiale, ça peut à terme être très problématique, parce que ces mesures de coercition, les autres États peuvent y répondre avec d'autres mesures de coercition. Mmh. On peut imaginer un chamboulement des chaînes d'approvisionnement, comme on a connu pendant le Covid, et on n'a plus trop de gendarmes, parce que l'Organisation mondiale du commerce est
moribond
en l'état. On l'a vu la semaine dernière.
À cause des Américains.
À cause des Américains, notamment sur l'organe d'appel qui permet de régler les différends quand il y a des bisbilles entre les États. Donc c'est un peu inquiétant. Et puis sinon, il veut continuer, poursuivre ses baisses d'impôts qu'il avait déjà décidé pendant son mandat, et renier complètement ses engagements les engagements des États-Unis sur le climat, avec le forage et l'exploitation des fossiles. Il veut drill, 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 il dit fort.
Drill, drill, drill. Voilà. Marc Vigneault, il faut faire cette comparaison avec l'Europe quand même. L'économie que tout le monde envie, elle est aux États-Unis. Vous l'avez dit, leurs perspectives sont plus lumineuses que les nôtres. C'est de la dette ? L'économie américaine, alors, est-ce que c'est comme ça que ça se finance?
Il est très tentant de dire oui, c'est de la dette. Alors c'est sûr qu'à court terme, la politique budgétaire américaine est extrêmement expansive, avec un déficit qui est encore proche de 7%. En fait, qu'est-ce que font les États-Unis? Ils jouent du privilège exorbitant du dollar pour mener une politique de subvention massive pour l'instant, notamment pour les énergies renouvelables. Ils avaient quand même du retard et ça ne permettra pas d'atteindre les cibles de l'accord de Paris. Mais en tout cas, Joe Biden a développé ça avec l'Inflation Reduction Act qu'on connaît bien pour stimuler les énergies vertes. Mais
est-ce qu'il faut en conclure, là je vous pique, est-ce qu'il faudrait en conclure qu'il faut creuser la dette en Europe et au lieu de mettre le pied sur le frein comme en ce moment?
Bah alors c'est toute la question, c'est que les Américains, ils peuvent mener cette politique. Hein. Par exemple, vous invitez régulièrement Patrick Artus qui explique que l'Europe n'a pas les mêmes moyens. En fait, les Américains, ils attirent des capitaux du reste du monde et donc, si vous voulez, ils peuvent se permettre d'avoir un déficit jumeau, d'avoir un déficit extérieur et un déficit public très important, sans que jusqu'à un certain point ça ne pose de problème. Alors il y avait eu un premier problème, c'est l'ancien chef économiste du FMI, Olivier Blanchard, qui dit ça, c'est que déjà les plans Biden et de Trump, ça a représenté 15% du PIB à l'après-Covid, et donc ça a en partie déclenché la crise inflationniste qu'on a connue. Rappelez-vous, l'inflation, elle a été déclenchée avant la guerre en Ukraine en Europe. Et ils disent en partie, c'est par l'énorme boom de demande à contre-temps avec des problèmes d'offres dans d'autres pays qui a déclenché cette crise inflationniste. Et donc, il y a une théorie qui s'appelle la théorie monétaire moderne défendue par des économistes comme Stéphanie Kelton qui disent la seule limite à l'endettement américain, puisqu'on peut produire notre propre monnaie, c'est l'inflation. Donc, il a fallu quand même que la Fed serre les boulons. Ça a été un peu compliqué. Mais c'est vrai que maintenant, il y a un atterrissage en douceur et on se dit finalement, cette stratégie, elle a marché. Encore une fois, en Europe, on n'a pas du tout la même structure fédérale, on n'a pas de budget véritablement européen et on ne pourrait pas faire la même chose parce qu'on n'a pas le dollar. Et puis surtout, structurellement, ce qui explique la divergence de PIB par habitant, ce n'est pas du tout l'endettement beaucoup plus élevé aux États-Unis, c'est d'autres facteurs dont on va parler.
Anne-Sophie.
Oui, alors quand même, il y a aux États-Unis, c'est pas trop une préoccupation des candidats ni des marchés. Ça commence à l'être quand même au niveau de la réserve fédérale américaine.
Déficit.
Le déficit américain.
7%, ouais.
Ouais, il a quand même dit, sur le long terme, les États-Unis se trouvent sur un chemin budgétaire insoutenable.
Exactement.
La dette grossit plus rapidement que l'économie. Les agences de notation aussi, elles commencent à avoir des doutes. Donc, ils vont un peu renflouer les caisses. Par exemple, Biden a proposé un programme de hausse d'impôts assez phénoménal et il annoncera lundi son budget et donc on saura comment il trouve.
Il passera jamais.
En tout cas, c'est son programme.
Il a pas les forces politiques,
il veut taxer les riches, je mentionne, mais de manière assez conséquente, puisque les 1000 milliardaires qui paient en moyenne 8,2% en taxes fédérales, il veut faire passer à 25%. Et il prévoit que ça rapporterait 500 milliards sur 10 ans. Alors qu'est-ce que ça peut nous dire sur l'Europe? L'Europe, évidemment, elle a aussi pas vécu, elle a plus ressenti et plus souffert de la crise énergétique après la guerre en Ukraine. Et il faut faire attention comme à ne pas répéter les erreurs et faire trop d'austérité, les erreurs de la décennie 2010.
Allez Marc, dernier mot.
Ce qu'il faut bien noter, c'est qu'en fait l'Europe, elle a un marché unique qui devrait être aussi puissant celui que les Américains. Il est même plus grand, mais en fait il est fragmenté. Et donc en fait, quand une entreprise se lance aux États-Unis, elle a le private equity, elle se finance, elle peut se lancer sur un marché avec une seule contrainte réglementaire qui est la même pour toutes les États-Unis. Et c'est essentiellement ça qu'il faut traiter en Europe.
Marc Vigneault, Anne-Sophie Le Chevalier, ils ont fait le débat. On n'arrête pas l'écho.
Real decreto ley para la ampliación de derechos de
industrialización en
unemployment and lower job creation.
Non connaissent l'économie.
On passe à l'écho en VO côté Est. Nous allons regarder de plus près ce capitalisme d'État très particulier qui existe en Chine. Évidemment, je traduis. Le développement de services modernes aux entreprises sera accéléré. Nous aiderons les très petites entreprises à devenir des entreprises spécialisées, expertes, uniques, novatrices. C'est le Premier ministre chinois qui parle cette semaine face à des milliers d'hommes et de femmes politiques venus de toutes les provinces pour la session annuelle du Parlement. Li Qiang renouvelle cette promesse, on va aider les entreprises privées. Seeing Chie, j'avais dit que je le dirais, entreprise privée en chinois, Seeing Chie. Bonjour Sébastien Berriot.
Hey, ni hao, Alexandra, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant de France Inter en Chine. Alors il y a le discours hein, favorable aux entreprises privées et puis il y a la réalité. Sébastien, une histoire fait beaucoup de bruit en ce moment chez vous, c'est celle de cette chef d'entreprise malmenée par les autorités locales.
Oui, nous sommes dans le Guizhou, au sud de la Chine, une province parmi les plus pauvres du pays et une province comme beaucoup d'autres ici, particulièrement endetté. Et c'est là précisément l'origine de cette affaire qui fait scandale depuis quelques jours. Au cœur de l'histoire, une femme de 46 ans qui est à la tête d'une entreprise dans le bâtiment. En 2016, cette femme d'affaires remporte plusieurs appels d'offres lancés par une collectivité locale. Les travaux avancent, mais une partie de la facture demeure impayé. Contrairement à d'autres promoteurs qui, en Chine, n'osent pas affronter les toutes puissantes autorités issues du parti, la femme d'affaires, elle fait entendre sa voix et même très fort une forme de rébellion pour réclamer à la collectivité une somme de près de 28 millions d'euros. Une attitude peu commune en Chine qui a provoqué une réaction pour le moins inattendue des autorités qui ont fait arrêter la chef d'entreprise pour un motif de trouble prétendu à l'ordre public. Révélée par un journal proche de l'État, l'affaire a provoqué un florilège de commentaires sur les réseaux sociaux, les internautes n'hésitant pas à montrer du doigt les gouvernements locaux accusés de profiter de leur pouvoir. Le district incriminé se défend, mais l'affaire a pris une tournure nationale, poussant la province du Guizhou à annoncer l'ouverture d'une enquête. Une affaire qui, en tout cas, vient illustrer les difficultés du quotidien rencontrées par le secteur privé, victime de l'endettement massif des collectivités et plus généralement de la domination, toujours et encore en Chine, de la puissance publique.
Sébastien Berriot avec nous de Pékin. Il est 9h35 sur France Inter, retour en France. Dans moins de 10 minutes, l'invité du Mag Echo, ce sera Daniel Ball, le directeur général du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, le futur numéro 1 du Crédit Mutuel tout court et du CIC. Nous allons parler du ralentissement de l'économie, des taux, du crédit IMO, des frais bancaires. Alors ces frais bancaires, chaque année les consommateurs s'acquitteraient d'environ 215 euros pour la gestion de leurs opérations bancaires quotidiennes. C'est une moyenne calculée par l'association UFC Que Choisir. Cette année, ça augmente après une stabilité des frais. Les frais de tenue de compte, les frais de carte bancaire, de package de services, de retrait au distributeur automatique repartent à la hausse entre 2,5 et 3 %, nous dit cette fois l'association CLCV. Avec les soucis de pouvoir d'achat, cette question des frais bancaires est dans le viseur des politiques. Certains ont été particulièrement pointés du doigt ces derniers mois. Je pense aux frais de transmission et aux frais d'incident bancaire. Alors ce matin, nous sortons du studio. Notre reporter Léa Guedj nous emmène à Strasbourg, dans les locaux de l'association Crésus, qui s'occupe des personnes fragiles financièrement.
La porte est ouverte.
Donc là, vous êtes chez Crésus, donc la plateforme Crésus. On est à peu près une dizaine de salariés à s'occuper de personnes en difficulté budgétaire. On va essayer de faire le bilan avec nos bénéficiaires, faire une espèce de photographie de leur situation. Et ensuite, on donnera des conseils à nos bénéficiaires.
Et parmi aujourd'hui les bénéficiaires que vous avez à l'association, vous avez des questions de frais bancaires ?
De plus en plus, oui. Quand j'ai commencé mon métier chez Crésus, comme conseiller budgétaire, il y avait peut-être une personne sur 10 qui avait des problématiques de frais bancaires importants. Et en quelques années, maintenant, je pourrais dire que c'est 1 sur 3. Le matraquage des frais, globalement, arrive lorsqu'on est dans le rouge, quand on est en découvert bancaire. Et c'est là aussi que sa situation de surendettement s'accélère.
Je voulais prendre de vos nouvelles. Ça va mieux ?
Vraiment un cas classique en ce moment, c'est un monsieur avec 1336 euros de revenus et 1875 euros de mensualité de crédit. Donc on a fait un dossier de surendettement à la Banque de France, mais il y avait encore mensuellement 300 euros de frais bancaires qu'on prélevait à ce monsieur. Et c'est assez courant actuellement.
Le conseiller a justement rendez-vous au téléphone avec ce bénéficiaire.
Oui, bonjour monsieur, c'est Nicolas de l'association Crésus. Je vous appelle pour faire le point. Là, maintenant, la prochaine étape, C'est les frais bancaires. Parce que j'ai bien compris que votre banque vous prélevait des frais démesurés, quoi.
Oui, alors ils se sont mis à me facturer 8 euros par paiement en carte bleue. Un exemple, je suis acheté une pizza à ma fille qui coûtait 8 euros. Et je me suis rendu compte sur mon compte qu'il m'avait pris 8 euros de frais sur le paiement de la pizza. Quel que soit le montant que je payais ma carte bleue, que ce soit 5 euros ou 40 euros, j'avais à chaque fois 8 euros de frais par ma banque. En allant voir mes comptes, je me suis rendu compte que mon découvert se creusait. Et j'ai regardé pourquoi il se creusait. En fait, j'ai vu toutes les lignes de frais d'intervention de ma banque. Ben, je suis arrivé sur les deux comptes avec tous les frais d'intervention et les frais de rejet des prélèvements à 300 euros par mois de frais.
Monsieur, est-ce que vous avez fait la demande d'offre spécifique à votre banque? Vous savez, vous avez le droit à un plafonnement des frais.
Non, parce que ma banque ne me l'a jamais proposé. J'étais pas au courant que ça existait.
Ben, en fait, il y a un plafonnement des frais d'incident bancaire de 25 euros par mois, y compris les commissions d'intervention. Normalement, la banque est tenue, pour les personnes en situation financière fragile, de plafonner ses frais de façon automatique. C'est vraiment la Banque de France qui a édicté cette règle. Et ensuite, si on choisit de souscrire à une offre spécifique, on peut réduire le plafond des frais d'incident à 20 euros par mois ou 200 euros par an. Donc ce n'est pas 300 euros par mois, c'est 200 euros par an maximum. Mais parfois, le conseiller bancaire le fait systématiquement, mais il y en a d'autres, il faut vraiment leur envoyer une lettre type pour leur expliquer que voilà, il faut absolument baisser les frais parce qu'ils sont en situation fragile. Quoi. Ça dépend de la personne qui tient vos comptes en fait à la banque. C'est vraiment au cas par cas. Mais c'est vrai que c'est un peu la jungle.
Frais d'incident ou de rejet, de carte ou de virement, de retrait ou de mandat de prélèvement, les plaquettes bancaires regorgent de tarifs dont se saisit parfois le législateur. C'est ainsi qu'en 2013, la loi a plafonné les frais de commission d'intervention facturés en cas de dépassement du découvert autorisé, pas plus de 8 euros par opération. Il y a quelques jours, ce sont les frais sur succession qui ont mobilisé les parlementaires. Le nouveau texte adopté prévoit de les encadrer.
Madame la ministre, monsieur le président de la commission des finances, mesdames et messieurs les députés, chers collègues.
La députée socialiste Christine Pires-Beaune a porté cette proposition de loi dans l'hémicycle.
On se souvient tous avec émotion de ces frais de 138 euros prélevés aux parents pour clôturer le livret A de leur petit Léo, 9 ans, qui venait de décéder d'un cancer en 2021. S'il s'agit d'un sujet qui, d'un point de vue économique, ne représente qu'une part infime des frais bancaires payés par les clients chaque année, 150 millions à 200 millions en 2023 environ, sur un total de 20 à 25 milliards d'euros, il revêt une dimension particulière du fait de sa nature.
On essaie tous, depuis 2021, parlementaires, sénateurs, députés, d'encadrer. La réponse du gouvernement, c'est « on va laisser faire les banques, elles vont trouver un accord ». En 2 ans, on a encore pris 25% d'augmentation et on n'a toujours pas l'ombre d'un accord. Donc je pense qu'il est maintenant temps de légiférer. Les frais bancaires, en fait, existeront, seront facturés dans le cadre d'une succession lorsqu'on sera face à une opération complexe avec des avoirs supérieurs à 5000 euros et ils seront plafonnés. C'est un élément important aussi de ce texte de loi. Demain, il y aura un plafond qui sera déterminé par décret.
Est-ce qu'il y a globalement un enjeu aujourd'hui à harmoniser et à encadrer les frais bancaires ?
Je crois qu'on sera effectivement obligé de revenir sur la question plus générale des frais bancaires. Il était un temps pas si vieux que ça. Je me souviens qu'il n'y avait pas de frais de tenue de compte. Aujourd'hui, on a des frais pour tenue de compte qui sont mensuels et qui augmentent. Donc peut-être qu'on gagnerait à avoir par exemple un plafond unique, tous frais confondus.
Preuve que les débats sur les frais bancaires dépassent les frontières de l'Hexagone, l'Union européenne s'est emparée du sujet. D'ici 2025, les banques devront proposer des virements instantanés sans frais supplémentaires par rapport à un virement classique. Les plafonds et autres restrictions de frais bancaires, qu'en pense la Fédération des banques françaises ? J'ai rendez-vous avec sa présidente, Maya Attig.
C'est pas parce que vous plafonnez que miraculeusement, le travail qu'il y a à faire ou la technologie qu'il y a à déployer va coûter moins cher. Il va falloir répartir le coût différemment de la façon dont on le faisait avant. Est-ce qu'il y a des services qu'on ne va plus pouvoir rendre ? Est-ce qu'il y a des accès en agence qui ne seront plus possibles ? Est-ce qu'il y a des publics qu'on ne va plus pouvoir servir ? Première réponse. Deuxième type de réponse, il va falloir regarder comment on ajuste les autres tarifs. On fera ce qui nous est demandé sur les parties qui sont réglementées et chaque banque décidera des ajustements nécessaires aux services, aux tarifs d'ensemble pour continuer à fournir la qualité des services du quotidien. Quand les frais augmentent, c'est que le coût de ces services a augmenté aussi. Si vous regardez la liste des fonctionnalités que vous avez dans une application, par exemple, eh bien cette liste des fonctionnalités, elle augmente tous les ans. Tout ça, ça n'apparaît pas par l'opération du Saint-Esprit. Donc, il faut investir. Et ces investissements, ils sont de plus en plus coûteux. Quand vous payez l'impression qu'ils ont un compte bancaire comme ils respirent, mais ce n'est pas parce que c'est simple que c'est gratuit.
Les frais bancaires, pourquoi les politiques s'en mêlent ? C'était le reportage de Léa Gage.
France Inter, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Et mon invité, c'est le directeur général du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Bonjour et bienvenue Daniel Ball.
Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Vous êtes proposé pour devenir début avril le numéro 1 du groupe. Il y a apparemment peu de suspense. Alors quelques chiffres quand même pour vous situer. 9e banque de la zone euro, 14 millions de clients et sociétaires. Vous n'avez pas d'actionnaires parce que vous êtes une...
Non, absolument. Nous sommes une banque coopérative et mutualiste. Nous avons des sociétaires mais pas d'actionnaires, effectivement.
Et un peu plus de 4 milliards de résultats nets en 2023.
Exactement.
Alors on parle de ces frais de succession. Les frais bancaires, c'est quand même un irritant perpétuel. Les associations de consommateurs sont très remontées contre les banques. On vient de l'entendre, les politiques se mêlent régulièrement du dossier. Ce qui est surprenant, c'est que quelqu'un dit dans le reportage, c'est la jungle, ça dépend de l'agence, ça dépend du conseiller. Est-ce que l'autorégulation des banques, Daniel Ball, ça marche vraiment pour les frais bancaires ?
Oui, je crois que les banques ont véritablement fait des efforts pour modérer leurs tarifs. Alors bon, je trouve que l'expression en tant que telle, frais bancaires, elle-même ne montre pas ce qu'est la réalité. En fait, il s'agit bien de prestations de services rendues aux clients. Le fait d'avoir un compte, le fait d'avoir un conseiller dédié, le fait d'avoir une carte bancaire, le fait d'avoir des infrastructures techniques derrière qui sont coûteuses, qui permettent de réaliser les opérations. Alors, ça a été dit par le reportage, donc ce ne sont pas mes chiffres. 215 euros par mois, c'est-à-dire un peu moins de 215 euros par an, c'est-à-dire un peu moins de 18 euros par mois. Je conçois que ce soit une charge. Maintenant, lorsqu'on l'intègre dans un budget global d'un ménage, il faut également relativiser. Ensuite, on nous parle d'augmentation forte. Pour ce qui nous concerne, j'ai vérifié avant de venir, depuis 2018, en moyenne, nous avons eu une augmentation de nos tarifs de 5%, alors que l'inflation était de
17%. 5% sur toute la période.
Depuis 2018 jusqu'à début 2024, avec les tarifs en place depuis le 1er janvier 2024. Ensuite, nous veillons... Et je donne l'exemple du Crédit Mutuel, mais d'autres banques font souvent la même chose. Nous veillons à modérer un petit peu nos tarifs. Par exemple, on a entendu tout à l'heure dans le reportage des clients fragiles. Nous avons, pour ce qui nous concerne, une offre client fragile qui est à 1 euro par mois net. C'est-à-dire, même s'il y a des incidents, et on entendait les 8 euros dont on parlait tout à l'heure, qui étaient manifestement des frais d'incident plus que des frais d'utilisation de la carte, ces frais-là ne sont pas facturés. Bon, donc c'est vraiment un geste qu'on fait parce que nous devons être solidaires. On a entendu parler des frais de succession. Il faut voir que certains dossiers de succession sont très simples à gérer et ne nécessitent pas beaucoup de travail. D'autres sont complexes. Mais nous avons des équipes dédiées pour le traitement des opérations de succession. Pour autant, pour la majorité des dossiers, nous avons décidé de ne plus facturer, puisque pour toute succession jusqu'à 10 000 euros...
Ça, c'est chez vous.
La proposition de loi parle de 5 000 euros. Pour ce qui nous concerne, jusqu'à 10 000 euros, ce qui fait plus de la moitié des dossiers, ne donneront plus lieu à une facturation.
Donc j'entends le plaidoyer pro domo, mais vous remarquez quand même avec moi que les politiques, par exemple sur les frais de succession, sont obligés de s'en mêler à un moment donné. Je remarque aussi que l'Observatoire des tarifs bancaires de la Banque de France a pointé dans son dernier rapport une tendance à créer... ou généraliser des tarifs bancaires. On avait compris que quand les taux étaient bas, les banques, elles ne gagnaient pas d'argent. Oui. Et c'est pour ça qu'il y avait des tarifs en augmentation. Mais là, les taux, Daniel Ball, ils remontent.
Les taux remontent, effectivement. le coût des ressources pour les banques augmente. Mais je tiens à faire remarquer que les taux des prêts, eux, n'ont pas monté. En tout cas, les prêts qui étaient en place.
Mais là, je parlais des tarifs.
Oui, non, mais effectivement, mais vous parliez également du fait que nous allons gagner davantage d'argent parce que les taux montent. Sans doute que le fait que les taux soient positifs est un meilleur contexte que de travailler dans un contexte de taux négatifs où on était autour de zéro. Je voudrais juste dire que le fait que nous ayons en France des prêts immobiliers à taux fixe a été au cours des deux dernières années une formidable protection pour les emprunteurs. Parce qu'alors que tous les prix augmentaient, leur mensualité de remboursement des prêts immobiliers est restée stable. Pendant ce temps-là, les taux sont restés fixes, les taux que les banques ont pratiqués sont restés à ces niveaux-là, alors que le coût des ressources sur le marché, c'est-à-dire le prix auquel nous achetions l'argent, continue à augmenter. Donc on voit qu'on a quand même une démarche extrêmement vertueuse qui amène à protéger nos clients, à protéger notamment les emprunteurs. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé en Espagne ou en Grande-Bretagne, où il y a eu beaucoup de défaillances dans le remboursement des prêts immobiliers, justement parce qu'on était sur des taux variables.
Bon, Daniel Ball, vous préférez parler du crédit immobilier que des tarifs.
Je peux parler des tarifs. Oui. Mais la réalité, c'est qu'on a en face de vraies prestations de services, de vraies charges, des salariés, des agences. Et je reste convaincu que nous devons être dans la modération. Et pour ce qui nous concerne, nous sommes dans la modération.
Alors, le crédit immobilier, Daniel Ball, on en parle. Ça serait en train de se débloquer un petit peu. Est-ce que c'est vrai?
Aujourd'hui, le sujet, c'est pas que les banques ne veulent pas prêter. C'est qu'il n'y a pas de demande. Alors, on peut faire tout ce qu'on veut, mais dès lors qu'il y a peu de demandes, parce qu'il y a peu de transactions immobilières, on ne va pas faire grand-chose.
Pourquoi il y a peu de demandes? Pourquoi les Français
Tout simplement parce qu'on est dans une situation d'attentisme. Bon, d'une part, parce que les taux ont remonté, donc ça réduit un petit peu la solvabilité d'un certain nombre de ménages. Mais aussi, aujourd'hui, on le sait bien, le marché de l'immobilier est relativement atone. Il a baissé en 2023 de l'ordre de 40%. Notre production de prêts, elle, de prêts immobiliers, a baissé de 24% en 2023. Ce qui veut dire que nous avons d'ailleurs gagné des parts de marché dans ce contexte. Donc il suffira qu'il y ait un redémarrage. Mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que les taux sont à un niveau qui est certes supérieur à ce qu'on a connu il y a 2 ou 3 ans, mais pas encore à des niveaux exceptionnels. Beaucoup attendent aujourd'hui une baisse des taux. Je pense qu'il y aura peut-être une baisse des taux, mais il ne faut pas s'attendre à ce que cette baisse des taux soit extrêmement importante d'ici l'été.
Là sur 21, d'ici l'été, oui.
Oui, d'ici l'été, je pense. En voyant l'évolution des taux qui est également dans les projets de la Banque Centrale Européenne. Mais une baisse des taux, ça veut dire que ça pourra avoir un effet sur une nouvelle hausse du prix de l'immobilier. L'immobilier n'a pas beaucoup baissé, notamment l'immobilier ancien. Mais tout simplement parce qu'il y a toujours une corrélation entre l'immobilier ancien et l'immobilier neuf. Et l'immobilier neuf ne peut pas baisser aujourd'hui, tout simplement parce que les coûts de construction ont fortement augmenté.
Bon, là, vous renvoyez la balle, du coup, vers les promoteurs.
Non, je n'envoie pas la balle, parce que de toute manière, ils ne peuvent pas faire baisser leurs prix, puisque eux-mêmes ont des coûts de construction augmentés, les matériaux ont augmenté, les coûts de main-d'œuvre ont augmenté. Donc, on est dans cette situation assez paradoxale.
Mais alors, comment on en sort, Daniel Ball? Parce que le gouvernement, par exemple, il cherche des nouvelles formules. On a entendu cette idée du crédit in fine, oulala, je vous vois soupirer.
Oui,
ça
oui.
veut dire, alors crédit in fine, c'est compliqué, on va pas rentrer dans la technique,
non, mais
en gros, ça fait...
C'est de mauvaises idées, c'est de fausses bonnes idées, voilà.
Ok, les nouveaux, le crédit in fine, le crédit hypothécaire, là, que défend Christophe Béchu.
Non, mais on a aujourd'hui, en France, un système de prêt immobilier qui fonctionne, avec notamment le taux fixe, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec aujourd'hui des banques qui font leur travail de manière très responsable, en regardant quelle est la capacité de remboursement et qui, chaque fois qu'elle peut accorder un prêt, la banque le fait. Je veux dire, la vocation d'une banque, et notamment d'une banque de détail, c'est d'accorder des crédits, c'est de faire du prêt immobilier.
Mais alors, comment on débloque? Si vous trouvez que leur formule, c'est pas bon, là, le crédit in fine, le crédit hypothécaire, qu'est-ce qui doit se passer pour aider les Français?
Un peu d'allègement peut-être sur certaines normes. Aujourd'hui, les normes du Haut Comité de Stabilité Financière sont un peu gênantes, notamment lorsque on accorde des prêts pour le locatif, donc ça c'est où on regarde le taux d'effort, alors qu'il faudrait plutôt regarder le reste à vivre. Mais ça, je pense qu'on peut trouver des aménagements.
Attendez, le taux d'effort, c'est donc 30, il ne faut pas s'endetter à plus de 35%.
Absolument, qui est une règle de bon sens, qui s'applique bien lorsqu'on achète pour occuper le logement, qui s'adapte un peu moins lorsqu'on fait un prêt locatif, et qui même doit donner lieu à un certain nombre d'érogations, parce qu'en fonction du niveau de revenu, on est parfois capable capable, en regardant le dossier de près, d'aller au-delà de 35%. Non, je pense sincèrement que si aujourd'hui les taux se stabilisent ou baissent un peu, ça peut être un élément pour redonner confiance et pour recréer de la demande. Alors créer un prêt in fine, c'est-à-dire qu'on va rembourser dans 20 ans, c'est juste mettre à la charge des emprunteurs un niveau d'intérêt extrêmement important. Puisque bon, tout le monde le comprend, lorsqu'on rembourse un prêt normalement, on réduit au fur et à mesure la charge d'intérêt.
Daniel Ball, je lis dans le journal Le Saône-et-Loire que vous avez proposé un prêt à taux zéro aux étudiants. En quoi ça sera différent de ce que tout... Il y a plein d'opérations promotionnelles pour les étudiants régulièrement.
Avec non, c'est pas une opération promotionnelle parce qu'on s'inscrira dans la durée. Donc à partir du 11 mars, dans nos caisses de crédit mutuel et dans l'ensemble de nos agences du CIC, nous proposerons jusqu'à 50 000 euros un prêt à 0% sur 80 mois. C'est pour nous, on l'appelle d'ailleurs le prêt solidaire étudiant, c'est une manière d'aider les étudiants, c'est une manière de permettre à des jeunes de commencer leurs études, alors que parfois l'élément financier peut être un frein, et c'est juste inacceptable qu'il puisse y avoir ce frein.
C'est un gros effort pour vous, ça vous met, il y a combien sur la table ?
Écoutez, pour un prêt qui serait de l'ordre de 20 000 euros sur 80 mois, ça fait 2 000 euros d'économie pour l'étudiant. Donc c'est autant de charges parce que nous, nous continuons à payer le coût de la ressource.
Bon, une autre annonce à l'occasion de la journée des femmes, vous avez dit que vous vouliez proposer un compte secret aux femmes victimes de violences conjugales.
Oui,
comment ça peut marcher ?
En liaison avec l'association Femmes Solidarité, le 3919, nous allons faciliter l'ouverture de comptes. Lorsqu'on ouvre un compte, il y a un certain nombre de vérifications, et notamment les justifications de domicile qu'il faut obligatoirement demander. Bon, lorsqu'une femme a été obligée de quitter le foyer, ou lorsqu'une femme ne veut plus que ses extraits de compte arrivent à son domicile parce qu'elle est en situation de violence conjugale, il faut trouver des solutions. Et avec cette association, nous avons pu travailler. On domiciliera les extraits de compte ainsi, on facilitera l'ouverture de compte de telle sorte à ce qu'elle puisse en toute autonomie et en toute discrétion, continuer à avoir un compte et notamment domicilier ses revenus sur ce compte et ne pas les domicilier sur un compte qui serait également celui du mari.
Daniel Ball, le directeur général du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, merci d'avoir été dans On n'arrête pas l'écho.
Merci de m'avoir invité.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Sandrine Foulon, notre auditeur Sacha s'interroge sur l'une des pistes du gouvernement qui consiste à relever les seuils sociaux, c'est dans son projet de simplification. Les entreprises n'ont pas les mêmes obligations en fonction de leur taille, mais si on passe de 50 à 100 salariés, les directions qui ont déjà un comité social et économique vont-elles devoir y renoncer ? C'est sa question.
Non, Sacha, pas obligatoirement. Les seuils sociaux déclenchent une série d'obligations pour les entreprises en matière de représentation des salariés, de contribution à la formation professionnelle ou à l'action logement. En revanche, rien ne les empêche de créer un comité social et économique, même si elles n'atteignent pas le seuil des 50 salariés. Et encore moins de le supprimer une fois qu'il est en place. Mais c'est sûr, toutes les entreprises ne sont pas enclines à être plus royalistes que le roi, et l'intention du gouvernement est plutôt d'alléger les contraintes. Il compte s'appuyer sur un rapport de parlementaire de la majorité pour son futur projet de loi de simplification, une sorte d'acte 2 de la loi Pacte de 2019 qui a déjà réduit ses bornes à 11, 50 et 250 salariés. Sur les 14 propositions pour rendre des heures aux Français, c'est le nom du rapport, 3 visent à remonter d'un cran tout ou partie des obligations liées à ces seuils ou à en créer d'autres. Il faut savoir qu'à partir de 50 salariés, Sacha, il faut non seulement mettre sur pied un CSE, mais nommer un commissaire aux comptes, rédiger un règlement intérieur ou prévoir un dispositif de lanceur d'alerte.
Mais alors Sandrine, il y a une question de fond. Est-ce que moins de contraintes, ça permet aux entreprises de recruter, de se développer ?
Ce qu'il faudrait, Alexandra, c'est une évaluation récente. On cite toujours cette même étude de l'INSEE de 2011. Elle pointait que les PME de 49 salariés étaient 2,5 fois plus nombreuses que celles de 51 salariés. On pourrait en conclure que les entreprises évitent de grossir pour éviter les contraintes, mais l'étude montrait aussi que si on supprimait ces seuils, la probabilité que les entreprises augmentent leurs effectifs était très faible. L'Italie, qui a décidé de ne plus en avoir, n'a pas constaté d'effet sur l'emploi. Comme toujours, Alexandra, les employeurs recrutent quand ils ont de bonnes raisons de le faire. Ce projet de relèvement des seuils est sans surprise un chiffon rouge pour les syndicats. Ce serait faire sauter une digue qui protège les droits des salariés. Mais vous ne le savez peut-être pas, cette idée est aussi un repoussoir pour le patronat des artisans, l'UDP, qui redoute qu'à force de simplification, les spécificités des petites structures soient gommées. Cette organisation patronale, tout comme la CPME qui défend les petites entreprises, est également contre l'autre piste inscrite dans le rapport qui consiste à déroger aux accords de branche. Ces représentants des petites entreprises ont toujours pensé que ces conventions collectives permettaient de moins subir la concurrence puisque toutes les entreprises d'un même secteur sont soumises aux mêmes règles, sur les salaires par exemple. Ne pas tomber dans le piège de la simplification, ça va être tout l'enjeu des prochains mois.
Sandrine Foulon, Mavi au boulot.